Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroque.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des droits et des libertés. Nous l'avons déjà fait. Cette fois, nous allons nous pencher sur le défenseur des droits. Défenseur avec une majuscule parce que c'est une structure au sein de la République française. Qu'est-ce que c'est que cette autorité administrative indépendante, son statut officiel ? À quoi sert-elle, notamment dans les rapports entre les citoyens et les administrations publiques ? Comment fonctionne-t-elle ? Comment peut-on la solliciter ? Pour répondre avec précision à ces questions, j'ai invité un des délégués du Défenseur des droits dans l'Hérault, Simon Savry-Catan. Merci d'être venu au micro de Divergence. Vous poursuivez vos études juridiques après avoir obtenu un master en droits fondamentaux. Au passage, qu'est-ce que c'est les droits fondamentaux ?
Bonjour. Alors les droits fondamentaux, bah, c'est un objet à la fois politique et juridique qui nous vient traditionnellement en France des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est un corpus de droits qu'on a décidé de placer au sommet des valeurs de la société et normes politiques, juridiques également. Donc après, on est passé à une vision des libertés publiques à la fin du 19e siècle, plus encadrée par la loi. Et aujourd'hui, au 20e siècle et fin de 20e siècle, on parle de droits fondamentaux, de plus en plus de droits et libertés fondamentaux, qui correspond à un élargissement et surtout à leur inscription donc dans ces textes de valeurs normatives supra-législatives au-dessus de la loi, c'est-à-dire la Constitution et les traités internationaux.
Donc un point de repère très important, je dirais, dans le dispositif juridique et politique de notre pays. Alors, avec cette compétence de juriste, vous avez rejoint en décembre 2023, il y a donc 2 ans, le service du défenseur des droits à Montpellier. Avant que vous nous en parliez, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Vous habitez à Montpellier depuis 4 ans. Quels sont le ou les lieux d'ici que vous appréciez particulièrement et que vous recommandez à vos amis de passage ?
Alors moi, mon lieu préféré à Montpellier, c'est un lieu qui pourrait en surprendre certains, c'est un petit square, tout petit, un peu ombragé, qui s'appelle le square du Père Bonnet. C'est un square qui est à Figueroles. J'ai passé le week-end dernier où on organisait là-bas une grande friperie à prix libre avec des concerts et des repas partagés également.
Donc c'est un lieu de rencontre.
Et il est assez emblématique de mon expérience de Montpellier puisqu'il a plusieurs dimensions ce lieu. C'est un square où il y a à la fois de graves problèmes sociaux, beaucoup de consommation de crack, il est fréquenté par beaucoup de personnes dans diverses formes de précarité. Et une situation qui s'aggrave d'ailleurs suite à la perte de certaines subventions d'une association spécialisée sur la toxicomanie, mais qui est également un lieu d'initiative solidaire et citoyenne permanente. Donc il y a des collectes et des distributions alimentaires d'invendus du quartier qui sont organisées par une association et qui ont lieu 2 fois par semaine, toutes les semaines. Et de très nombreux événements chaleureux pour en faire un lieu qui soit accueillant et inclusif pour toutes et tous, c'est-à-dire des personnes à la fois précaires, mais aussi les voisines, les voisins, les enfants, donc avec toutes ces difficultés. C'est un lieu qui révèle les contrastes entre ces différentes réalités qui ensemble, je crois, font Montpellier.
Très bien. Alors, comme chaque fois, le choix du lieu raconte l'invité, mais la question aussi faite pour ça. Alors, venons-en maintenant au sujet qui vous ramène ici à Divergence. Alors, je l'évoquais là, le défenseur des droits, autorité administrative indépendante, qu'est-ce que c'est ? Y a-t-il d'autres autorités de cette sorte en France ?
Alors, le défenseur des droits, donc, est une autorité administrative indépendante, comme vous le disiez. Donc, une autorité administrative indépendante, c'est un type d'institution publique. Il en existe plusieurs, et même un nombre assez élevé en France. Et c'est un type d'administration qui a un rôle de surveillance et d'intervention dans certains domaines spécifiques. On peut penser à d'autres telles institutions comme par exemple la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est responsable de la protection des données personnelles en France. Mais il y en a d'autres comme l'autorité de la concurrence ou encore l'autorité des marchés financiers qui interviennent sur des problématiques spécifiques. Le défenseur des droits, lui, est en fait donc la seule autorité administrative indépendante qui est inscrite dans la Constitution, de rang constitutionnel.
Depuis 2008,
depuis une réforme de 2008. Et elle a pris ses fonctions concrètement en 2011. À la suite, donc, en fait, le défenseur des droits, c'est le résultat de la fusion de 5 institutions qui existaient auparavant, qui avaient des champs de compétences différents, qui ont été unifiés de par leurs points communs. Et les 5 institutions correspondent aux 5 champs de compétences actuels du défenseur des droits. Donc la plus connue,
citons-les pour que chacun y trouve des repères,
le médiateur de la République, qui était donc une institution chargée de faire de la médiation entre les citoyens, citoyennes et au sens large d'ailleurs les usagers et usagères du service public et des services publics et les dits services publics, les administrations françaises. Donc ça, c'est un des principaux champs de compétences du défenseur des droits aujourd'hui. Mais le défenseur des droits a également repris les missions donc de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, également d'une institution qui s'appelle le défenseur des enfants, sur les droits des enfants au sens large, et également des compétences un peu parallèles à d'autres institutions sur ces domaines, sur la déontologie des forces de sécurité, police, gendarmerie, mais également sécurité privée, et les lanceurs d'alerte, la protection des lanceurs d'alerte en France. Le défenseur des droits intervient dans tous ces domaines sur notamment, principalement, les saisines du public. Il peut également rendre des avis sur les projets de loi ou les travaux des institutions nationales. Enfin, il a d'autres modes encore d'intervention pour promouvoir l'égalité et les droits fondamentaux.
Alors, on l'a vu, bon, tous ces champs d'action, ces compétences que détient le défenseur des droits, il touche sous différentes formes, aux droits et aux libertés et aux conditions dans lesquelles elles doivent être exercées pleinement. Alors, au passage, j'indique que le défenseur des droits de l'institution est actuellement dirigé par la défenseure des droits, Claire Hédon, ex-journaliste, ancienne présidente du mouvement TEDx Armonde. Elle a été nommée pour 6 ans en 2020 par le président de la République. Elle a succédé à Jacques Toubon. Alors, nous avons d'emblée installé le cadre national. Voyons maintenant comment le défenseur des droits est organisé dans l'Hérault, de quels moyens dispose-t-il et comment est-il présent dans le département, ce défenseur des droits, entre autres par votre entremise.
Alors, ça nous ramène à la question de l'organisation quand même nationale aussi du défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est une institution qui a un centre névralgique qui est le siège à Paris, où se trouve la très grande majorité des agents du défenseur des droits, qui sont donc des agents publics, des fonctionnaires. Et ensuite, il y a un maillage dans tout le territoire, dans tous les départements et les dom-tom, en tout cas c'est l'objectif, de délégués du défenseur des droits. Les délégués du défenseur des droits sont des bénévoles, des professionnels de l'administration ou du droit, mais généralement des personnes qui disposent d'un peu plus de temps et qui vont assurer cette mission en fait au plus proche du public, d'accueillir et recueillir les saisines du public, les réclamations adressées aux défenseurs des droits sur les champs de compétences dont nous avons parlé précédemment. Dans l'Hérault, il y a actuellement, si je ne me trompe pas, 11 délégués, avec autant et même un peu plus de permanence et de lieux de permanence. Les lieux de permanence sont en fait dans les villes importantes du département, donc Montpellier, mais aussi Sète, Gignac, Lodève, Clermont-l'Hérault, Agde. Voilà, donc il y a des permanences un peu réparties donc, sur le territoire, et ce sont des permanences où on peut prendre un rendez-vous gratuitement. Toute personne peut prendre un rendez-vous pour toute question bon, qui se rapporte à minima, on espère, à un problème juridique, mais c'est aussi donc, et avant tout, un lieu d'écoute, d'information et également d'orientation. Si ce n'est pas un problème sur lequel le défenseur des droits est habilité à intervenir, nous orientons vers d'autres institutions.
On va regarder ça de plus près. Alors, il n'y a pas d'argent. Vous êtes bénévole et les demandes déposées auprès du défenseur des droits sont elles-mêmes gratuites, ce qui est bien sûr normal. Alors, vous l'avez un peu évoqué, quelles sont les conditions à réunir pour solliciter le... Je ne sais pas comment s'y prendre, je ne sais même pas si le problème que j'ai relève du défenseur des droits, mais en tout cas, comment accède-t-on à ces 11 délégués dont vous faites partie?
Alors, très concrètement, la principale et meilleure porte d'entrée, c'est la prise d'un rendez-vous en présentiel. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous différencie d'autres institutions, c'est qu'on peut commencer par ça et qu'on essaye de le rendre le plus facile et accessible possible. Donc, la prise de rendez-vous, on peut également être saisi par tout mode, en fait, hein, par téléphone, par mail, par formulaire de contact sur le site internet, par courrier, mais étant donc dans une activité bénévole pour les délégués, le rendez-vous finalement comme premier accueil est aussi plus pratique, on va dire, pour nous. Donc pour un traitement rapide, ça peut faciliter les choses, puisque
un
si on nous saisit à distance
entre la personne, voilà, et l'un d'entre vous. Et alors, un numéro de téléphone peut-être?
Oui, hein, alors à Montpellier, le lieu principal de tenue des permanences, nous sommes trois délégués à tenir des permanences, c'est la maison de la justice et du droit de Celle-Neuve, qui est en fait une annexe du tribunal judiciaire de Montpellier, dont le numéro de téléphone est le 04 67 72 76 80.
On pourra le redonner. Je répète, on le redira en fin d'émission, 04 voilà. 67 72 76 80.
Et vous disiez donc, pour saisir le défenseur des droits, que faut-il faire au préalable, en quelque sorte? Et effectivement, le défenseur des droits a des modalités d'intervention qui sont encadrées par la loi, et l'une d'entre elles est tout de même qu'une démarche préalable ait été faite par la personne qui vient nous consulter auprès de l'administration, si c'est un litige avec l'administration, ou auprès de la personne.
Il y a une difficulté, je parle, peu importe, sans distinguer les personnes, avec la CAF ou avec la Poste ou avec le ministère des Affaires sociales. Il faut quand même commencer la démarche au bon endroit qui est censé répondre. Et c'est à la suite de quoi, si la personne en question est insatisfaite, n'obtient pas réponse, dans un second temps, elle s'adresse à vous. C'est bien ça le...
Tout à fait. Et l'intervention du défenseur des droits ne suspend pas d'éventuels délais de recours. C'est important de le préciser. Donc, il faut toujours faire attention quand on conteste ou qu'on a une difficulté avec l'administration, à vérifier s'il y a bien des délais qui sont en cours, car si les délais pour contester quelque chose expirent, eh bien, on ne pourra pas non plus intervenir, ou beaucoup moins facilement.
Donc, est-ce que vous pouvez préciser le type de cas, au moins un grand trait là, que vous êtes amené à rencontrer?
Donc peut-être le premier domaine dans lequel nous sommes saisis, ce sont les difficultés des personnes de nationalité étrangère, en particulier liées au renouvellement de titres de séjour.
Alors je vous interromps, c'est que bon, j'ai parlé de citoyens qui pourraient s'adresser aux défenseurs des droits. Ce que vous dites permet de conclure que les résidents français, en France, étrangers, peuvent frapper aussi à la porte du défenseur des droits.
Bien sûr, toute personne qui habite en France, qui réside en France ou qui y est de passage d'ailleurs, finalement, peut nous saisir en tant qu'usager ou usagère d'un service public. Les personnes de nationalité étrangère sont des usagers, usagères du service public, des renouvellements de titres de séjour au sein des préfectures. On peut d'ailleurs, je le précise, être saisi par les enfants, sans leurs responsables légaux. Les enfants ont le droit de nous saisir sous cette casquette de défenseur des enfants.
J'imagine que c'est rare, mais bon, c'est possible.
Ça ne m'est jamais arrivé pour le moment, mais c'est possible, et peut-être faudrait-il les en informer, et nous aurions peut-être plus de saisines.
Très bien. Alors, on poursuit, bon, ce descriptif à grands traits des conditions dans lesquelles se fait votre travail. À partir des demandes que vous avez traitées, quelles sont les étapes successives du travail à l'interne, je dirais, du défenseur des droits et de ses équipes?
Alors oui, donc j'ai parlé des saisines en matière de droits des étrangers, mais donc le premier motif, vous l'aurez compris, de saisine, c'est bien les difficultés avec les différentes administrations qui composent le tissu institutionnel de notre République. Et du coup, c'est cette question d'intervenir en tant que médiateur institutionnel qui se pose dans ces cas-là. Quand ce sont des questions de discrimination ou de droits des enfants, là, cela peut être des personnes privées ou des organismes privés qui sont mis en cause, et le défenseur des droits intervient de la même manière, en première intention, dans une posture de médiation, qui est donc d'approcher l'organisme, l'administration ou la personne mise en cause, et d'engager le dialogue sur les difficultés qui ont été portées à notre connaissance.
Sur le dossier dont il est question, bien sûr.
Sur la difficulté qui a été présentée par l'usager du service public.
Quand vous êtes reçu, là, pendant les administrations, comment ça se passe, là?
Eh bien,
le défenseur des droits, fort de sa légitimité, intervient, mais donc, est-ce que ça crée quelques crispations dans les administrations qui sont concernées, ou c'est rarement le cas?
Alors normalement, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place pour permettre des relations fluides, et c'est ça qui permet une intervention efficace du défenseur des droits.
Ouais, on ainsi, met de lui dans les rouages.
Voilà, donc ainsi des personnes ou des cellules, pourrait-on dire, référentes sur ces questions sont désignées dans les administrations locales de chaque département pour être des contacts référents pour les sollicitations des délégués du défenseur des droits. Et donc nous avons la chance, finalement, que n'ont pas la plupart des usagers et des usagères des services publics, d'avoir un accès direct à une personne,
un interlocutrice désignée qui est votre partenaire
et qui va étudier avec nous la question qui est soumise par la personne qui vient nous voir. Mon dossier, je n'arrive pas à avoir de réponse sur une demande qui est en cours depuis tant de temps, est-ce que le délai est normal, où en est la procédure, pourquoi ne reçois-je pas de réponse lorsque je contacte par mail ou par téléphone l'administration. Et dans ces situations, nous parvenons à établir un dialogue et à parfois donc permettre d'expliquer la situation, de comprendre où cela en est, peut-être de la relancer si une procédure était un peu au point mort ou quelque chose comme ça, ou parfois régulièrement mettre en lumière des dysfonctionnements qui expliquent les difficultés dans la situation et permettent potentiellement de les résoudre par la voie donc de la résolution amiable avec l'administration.
Donc, avec un taux, je dirais, permet... bon, on ne va pas sortir des statistiques qui pourraient être contestées, mais une proportion de réussite de ces démarches satisfaisante globalement.
Oui, plutôt, elle va dépendre des problématiques, des administrations. Certaines ont mieux intégré peut-être plus à leur fonctionnement les mécanismes d'interaction avec le défenseur des droits. Mais globalement, sur des saisines, que ce soit après une résolution par une meilleure compréhension, un dialogue sur la situation ou une résolution favorable qui permet de débloquer un dysfonctionnement, on est presque deux tiers ou trois quarts des médiations institutionnelles qui donnent quelque chose. Donc ce n'est pas si mal. Et pour celles qui ne donnent pas quelque chose, eh bien ce n'est pas forcément la fin de l'histoire, puisque si une réelle difficulté, un réel manquement au droit de la personne a été identifiée au niveau de notre intervention du défenseur des droits, eh bien la médiation se termine parce que la situation n'est pas débloquée, mais le dossier peut alors être transmis par les délégués au siège du défenseur des droits, où là ce sont des agents
enfin de deuxième
voilà qui vont finalement mener une instruction approfondie sur les situations les plus complexes ou alors sur celles où une violation des droits de la personne semble être pouvoir être présumée, et vont mettre en œuvre des pouvoirs d'instruction qui sont autres, qui sont des pouvoirs d'enquête, de se faire communiquer certains documents et qui peut mener à différentes conclusions. Le défenseur des droits peut prendre une décision qui recommande une résolution de telle ou telle manière, recommandation qui peut être présentée à l'appui par exemple d'un recours par la personne, ou encore si la justice est déjà saisie du litige qui oppose une personne avec une administration, un employeur sur les discriminations ou autres, le défenseur des droits peut intervenir et produire finalement une analyse juridique de grande qualité pour contribuer au débat qui a lieu devant le juge, et c'est enfin le juge qui tranche. Le défenseur des droits ne remplace pas le juge dans le règlement
mais
des litiges.
Il donne à connaître.
Mais voilà, il présente
l'analyse,
avec
l'analyse
son expertise.
Du dossier. Et le diagnostic, en tout cas, ce qui peut en
exactement
résulter dans une décision...
Pareil, dans ces cas-là, mener à une assez grande majorité des affaires en question qui sont en justice, dans lesquelles, finalement, le tribunal va suivre les recommandations du défenseur des droits.
Très bien. Alors, nous voyons à peu près maintenant le fonctionnement local et, pour le coup, un peu national défenseur des droits. Je vous propose maintenant de creuser un point majeur, les difficultés à réaliser des démarches administratives. Une enquête nationale commandée par le défenseur des droits m'a conduit à vous inviter. Elle a été réalisée par l'Institut Ipsos qui, d'octobre 2024 à janvier 2025, a interrogé 5030 personnes âgées de 18 à 79 ans. Objectif de cette enquête, connaître la situation en matière d'accès aux droits et de discrimination, on l'a évoqué, vécue par la population de la France métropolitaine. Donc la population et pas les seuls Français. Premier trait saillant du tableau ainsi brossé, il est énorme. Les difficultés pour réaliser des démarches administratives ont fortement augmenté. En 2016, 39% des répondants disaient en rencontrer. Il y a environ un an, ils étaient 61%, soit 22% de plus en 8 ans, alors qu'on pouvait espérer une stabilité, voire une amélioration de la situation. Bien sûr, vous n'êtes pas responsable de cette situation, Simon Savricatan, mais comment l'analysez-vous avec la perception que vous avez du fonctionnement du défenseur des droits et plus généralement du fonctionnement des administrations publiques ?
Alors, pour bien comprendre les raisons qui peuvent expliquer le contexte dans lequel s'inscrit cette augmentation, on peut s'intéresser en fait de plus près aux résultats de cette enquête. Donc on voit qu'il y a une augmentation, on passe de un peu moins de 40% des gens avec des difficultés, comme vous l'avez dit, à plus de 60% en 8 ans, à mener leur démarche administrative. Et cette augmentation, en fait, elle concerne toutes les catégories socio-économiques, les catégories socio-professionnelles, par exemple. On voit qu'il y a un rattrapage très important des cadres et des professions intermédiaires qui, en fait, traditionnellement, avaient moins de difficultés.
Il y a un niveau de connaissance déjà des procédures, du contexte.
Voilà, par rapport aux personnes sans emploi ou aux personnes ouvriers ou employées. Et il y a un rattrapage qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus vraiment de différence entre ces différentes catégories par rapport aux difficultés à réaliser des démarches. Cette augmentation, elle concerne également tous les âges. Alors, de même, dans l'enquête d'il y a 8 ans, les 18-34 ans étaient très représentés dans les difficultés à réaliser des démarches administratives, pour des raisons qu'on a toutes et tous vécues, je pense. Quand on atteint l'âge adulte, on découvre un peu, en fait, cette vie-là, des procédures administratives. Mais les 35-54 ans et les seniors, qui avaient moins de difficultés, les personnes âgées étaient celles qui avaient le moins de difficultés, en fait, il y a encore quelques années, à mener des démarches. Et aujourd'hui, on a complètement rattrapé ces tranches d'âge. Finalement, tout le monde, quasiment aujourd'hui, a des difficultés, quel que soit le niveau de profession, le niveau socio-économique ou l'âge. Donc on voit qu'il y a des raisons profondes à ces difficultés à réaliser les démarches administratives. Alors les publics qui sont surexposés, nous dit l'enquête, à ces difficultés sont notamment les personnes en situation de précarité économique, les personnes handicapées, les ouvriers et employés qui restent tout de même un peu plus surreprésentés dans les difficultés, les personnes peu diplômées et, bien qu'ils ne font pas partie de l'enquête, on peut le redire, les personnes de nationalité étrangère restent également des personnes qui ont des difficultés avec les démarches. On voit en fait qu'il s'agit des publics vulnérables, c'est-à-dire les publics qui présentent des difficultés de toutes sortes par rapport à mener une vie sociale à égalité avec le reste de la population. Et on voit que ces difficultés, elles sont particulièrement importantes dans le cas des démarches en ligne. Et là, on comprend que la dématérialisation des services publics, qui est en cours depuis de nombreuses années et qui va de plus en plus, en fait, produit certains effets pervers qui, aujourd'hui, ne sont pas ou pas suffisamment pris en charge par la collectivité.
Ça, c'est un phénomène, bien sûr, flagrant, hein. Beaucoup de difficultés de toutes sortes. Qu'est-ce que ça veut dire télécharger ?
Des choses très basiques.
Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que les difficultés pour les démarches en ligne sont assez généralisées. 7% des personnes interrogées les évitent, ces démarches en ligne. 8% n'y arrivent pas seuls. 36% déclarent avoir besoin d'une aide. Et alors, ce qui est frappant là aussi, c'est que les jeunes ne sont pas épargnés, puisque 51% des 18-34 ans, des personnes de votre génération, Simon Savricatan, disent rencontrer le même problème. Alors, réfléchissant à ce chiffre, je disais que le fossé n'est peut-être pas dû simplement à l'outil, mais à la manière dont l'outil doit être utilisé, ou les éléments de compréhension de la démarche à faire en ligne sont-ils suffisamment clairs pour que les différentes personnes qui sont peu ou pour bloquées puissent trouver la voie du succès dans leur démarche.
Eh bien, tout à fait. En fait, on voit que ces difficultés sont liées, quand on analyse de près la situation, on peut se rapporter à l'analyse qui a été faite par l'Observatoire des discriminations de la ville de Montpellier. C'est une structure qui réunit des chercheurs en sciences sociales et des institutions présentes à Montpellier, qui montraient en fait que la dématérialisation est allée de pair avec une externalisation de certaines tâches qui étaient auparavant traitées en interne des administrations, à savoir par exemple le remplissage des formulaires. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas pour toujours ou pour tout le monde. Et on voit que là, avec la dématérialisation, finalement, ce micro-travail de remplir le formulaire, eh bien, on demande des compétences. des compétences linguistiques, des compétences rédactionnelles, administratives, des compétences de manière générale organisationnelle, numérique, qu'est-ce que c'est télécharger, etc. Et on comprend mieux pourquoi les personnes les plus vulnérables vont avoir des difficultés face à ce micro-travail qui leur revient désormais de mener. Alors finalement, ces questions de informatique révèlent et augmentent, amplifient les inégalités qui existaient déjà sur ces questions. Et les problèmes les plus fréquents qui sont relevés par l'enquête accès au droit montrent qu'en fait, les problèmes qui sont les plus bloquants sont ceux qui demandent un accès à un interlocuteur ou une interlocutrice humaine.
Parce que c'est effectivement très important. Alors l'enquête cite plusieurs problèmes, plusieurs causes de ces difficultés. Je les cite rapidement. Le manque d'informations ou les mauvaises informations, sans donner le chiffre. L'absence de réponse ou une réponse tardive. La complexité des démarches, telle qu'elle est perçue par les personnes. La demande répétée de pièces justificatives. Et une erreur de traitement. Mais la raison principale qui est avancée par les personnes qui ont répondu, pratiquement les trois quarts, 72%, c'est la difficulté à rencontrer quelqu'un pour obtenir des informations en rendez-vous. En clair, là, il n'y a pas de place pour une relation humaine, comme vous l'avez dit. Dure réalité, me semble-t-il, à notre époque, où, là, pour le coup, là, il n'y a pas de progrès, mais plutôt un recul dans la qualité des relations entre les administrations et les personnes qui ont besoin des services que ces administrations dispensent.
Alors oui, tout à fait. Et ce n'est pas juste une question de qualité du service public, mais bien des règles fondamentales de fonctionnement du service public. Le service public est régi par des principes fondamentaux, parmi lesquels l'adaptabilité du service public et surtout l'égalité d'accès. L'égalité d'accès au service public, ce n'est pas quelque chose qu'on rangerait juridiquement dans le cadre des obligations dites de moyens, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Non, c'est une obligation de résultat. L'égalité d'accès au service public doit être assurée et cela implique effectivement parfois d'y mettre les moyens nécessaires. Garantir les droits des usagers en toutes circonstances n'est pas finalement une option sur ces questions. Là-dessus, le défenseur des droits a certaines recommandations qui sont formulées à la suite de cette enquête. C'est de favoriser toujours l'approche dite omnicanale, d'avoir des alternatives qui soient faciles d'accès, surtout aux procédures dématérialisées, de toujours garder ces canaux ouverts et facilement accessibles. Également, d'assurer donc l'inclusivité et l'accessibilité des services publics, qu'ils soient en ligne ou physiques. On parlait de difficulté à avoir des informations, la qualité de l'information, bien souvent avec des évolutions rapides, par exemple des cadres, encore une fois, sur les droits des étrangers, les cadres juridiques, l'information finalement se perd, elle est dans un décret obscur que le commun des mortels ne retrouvera jamais. Et simplifier donc l'accès à l'information, simplifier les interfaces numériques et renforcer l'accompagnement humains des usagers et des usagères sont finalement les seules manières de remédier à toutes ces difficultés et ce sont les recommandations que porte dans chacun de ces domaines de compétences le défenseur des droits.
Très bien. Alors, bien sûr, on pourrait prolonger cet aspect des choses. Là. Le diagnostic est établi, on l'a dit, à ces mots, quel remède ? Vous en avez proposé quelques-uns. Le défenseur des droits, dans la conclusion de l'étude sur laquelle nous sommes appuyés, le dit. Mais comme ce sujet méritait d'être développé, nous y consacrerons une autre émission pour voir, avec des points de vue du côté du défenseur des droits, des points de vue de syndicalistes ou de membres d'associations qui ont des choses à dire en ce sujet. Alors, je rappelle que le défenseur des droits est chargé de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés. Amis auditeurs, amis auditrices, si vous pensez que vous êtes dans ce cas, sachez que ces délégués sont accessibles. Simon Savricatan, rappelez-nous le numéro de téléphone par lequel vous-même et les autres délégués de l'Hérault du défenseur des droits peuvent être joints.
Et c'est bien le 04 67 72 76 80 pour joindre donc la Maison de la Justice et du Droit de Celle-Neuve à Montpellier et demander ensuite un rendez-vous avec un ou une déléguée du défenseur des droits. Pour un mot de la fin, je dirais aussi, c'est un peu la touche personnelle, que finalement renforcer cette logique de solidarité également entre usagers et usagères du service public, d'aider autour de soi si on voit quelqu'un qui est en détresse avec un service administratif.
Il n'y a pas que les institutions ou les organismes concernés, il y a chacun de nous qui peut apporter sa part.
Bien souvent, quand nous sommes saisis, nous sommes aussi saisis par des pères aidants, des tiers, des accompagnateurs et accompagnatrices, des personnes les plus vulnérables. Les personnes les plus vulnérables arrivent rarement toutes seules vers nous. Donc, je vous encourage pour cela à continuer à aider autour de vous.
Très bien, merci Simon Servicatan et peut-être une prochaine fois.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.